c'est parce qu'il y a des gens
Afghanistan,
partout, un peu partout, qui écoutent, que je retransmets ça. Pas mal aux États-Unis, c'est assez étonnant. Et quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Donc, un serviteur fidèle et qui fait la volonté de Dieu n'a que du bonheur de voir arriver Jésus. En principe, si quand vous pensez que Jésus va revenir, vous avez la trouille, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire peur, la crainte, vite, mettez-vous en ordre. C'est qu'il y a un problème de relation avec lui. Alors, je vous dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Ben oui, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Après les tribulations, dans le royaume de Dieu. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à devenir, s'il se met à battre ses compagnons, donc il est agressif, il est frustré, il critique, il ne faut jamais que les défauts des autres, hein, parce que c'est une façon de battre les autres, ça. Ils sont en difficulté, je les y laisse. C'est aussi une façon de battre les autres. Celui qui ne fait pas le bien commet un péché. S'il peut faire le bien qu'il ne le fait pas, il commet un péché, l'épître de Jacques. C'est une façon d'affirmer son agressivité. Une indifférence agressive, un cœur dur. S'il mange et s'il boit avec les ivrognes, bien vivre, je vais bien vivre, je vais bien manger, j'aurai mes vacances, j'aurai ma maison, ma seconde résidence. Après moi les mouches. Vous croyez qu'il n'y a pas des chrétiens comme ça? C'est à pleurer des fois. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne le connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, il y a un châtiment énorme qui est là. Bon, naturellement, je pourrais me poser la question, si ce chrétien n'est pas fidèle, qui n'est pas enlevé dans les tribulations, qui va le mettre en pièces? Est-ce que c'est réellement Dieu? C'est plutôt l'Antichrist qui va dire, toi, tu es quand même un chrétien, tu portes l'étiquette. Et Dieu va laisser faire l'Antichrist, il va laisser faire. Et peut-être que le gars va se convertir. Peut-être que le gars ou la femme va dire, pardon Seigneur, j'ai péché, j'ai pas été fidèle. Peut-être qu'il va vraiment se convertir durant la tribulation. Mais il sera battu, il sera mis en pièces. Oui. Alors, c'est quelque chose d'important. Ce serviteur qui s'occupe de donner la nourriture, la parole de Dieu, le bon témoignage aux autres. C'est une mission intégrante de notre foi. C'est pas quelque chose de facultatif et d'hypothétique, d'accidentel. Paul dit dans Romains chapitre 9 que la parole est tout près de ton cœur. Si tu la confesses, tu seras sauvé. Tout près de ton cœur, ça veut dire que tu l'aimes, que tu la mets en pratique. Même un sourd muet peut confesser sa foi. Oui, par la façon dont il est, la façon dont il prie. Si vous ne savez pas bien parler aux gens, ne vous tracassez pas. Soyez vraiment chrétien. Par d'autres gestes, par des services, par quelque chose qui ne se passe pas dans le cœur des autres. Vous verrez que les autres reconnaîtront. Même si vous n'êtes pas un beau parleur ou un intellectuel, vous avez des capacités de témoigner. Il n'y a pas besoin d'être intellectuel, d'avoir fait un institut biblique pour témoigner. Autrement, il n'y aurait jamais eu d'église dans le monde. Hein. Alors, nous allons donc dans ce service de la parole de Dieu, ou nous n'y allons pas. C'est un choix. Prenons l'autre cas. On peut développer ce sujet-là. Hein. Mais bon, le temps se fait court. Le deuxième point, c'est au chapitre 25. C'est le sujet de la lumière. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Si vous avez déjà fait attention en lisant attentivement, Marc et Luc parlent du royaume de Dieu dans toutes les circonstances. Jésus est venu, repentez-vous, le royaume de Dieu est arrivé. Si vous regardez Matthieu, qui est un juif devenu chrétien et qui a écrit son évangile, surtout pour les communautés constituées par des juifs convertis, il a deux mots, royaume des cieux, royaume de Dieu. Le mot royaume de Dieu représente l'establishment, de Jésus sur terre, sa royauté après la tribulation. Le royaume des cieux, c'est le temps de l'Église, c'est le royaume de Dieu contesté et contestable. C'est l'ensemble des églises, depuis le début, où il y a du blé et de l'ivraie, des boucs et des brebis. Il y a du vrai et du faux. Le royaume des cieux, c'est une réalité que Matthieu, en prenant les paroles de Jésus, a voulu faire comprendre à ces juifs. Vous pouvez vous dire chrétien, né de nouveau, y paraître, et puis en fin de compte, vous n'êtes peut-être pas acceptable par le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, vous savez bien que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, vous m'avez dit « Seigneur, Seigneur, mais arrière de moi, vous avez vécu dans l'iniquité parce que vous n'avez pas fait volonté de mon Père. » Donc, tout quiconque se dit chrétien passe au test du mensonge. Le test du mensonge. C'est ça le problème. Il faut éviter le mensonge, les amis. Pour être... Et ça, c'est important. Alors, dans ce récit, premier récit de chapitre 25 de Matthieu, vous avez cinq vierges folles, cinq vierges sages. 5, 10, c'est des chiffres de l'imperfection. Ça dit déjà quelque chose de ce que Jésus sait de l'Église à la fin des temps, Église imparfaite. Et pratiquement, half and half, 50-50, la moitié en ordre, la moitié pas en ordre. Et souvent, vous avez vu, vous êtes à deux dans le lit, et puis quand le Seigneur reviendra, il n'en prend qu'un. Ouh là là! Vous êtes dans le champ, vous travaillez deux, il n'y en a qu'un. Donc, c'est 50-50. C'est bizarre, c'est un sacré avertissement de la part de notre Seigneur. Alors, il y a celles qui n'ont une lampe, je dirais qui ont la Bible, et qui n'ont pas la lumière pour comprendre. Ils ne vivent pas dans le Saint-Esprit, dans l'obéissance à Dieu, et ils ne voient même pas leur péché. Ils ne voient même pas où il faut être sanctifié par le Seigneur. Ah oui, on va peut-être à l'église tous les jours, depuis la naissance jusqu'à l'enterrement, mais quoi? Vierge folle, ça existe. Ça peut être nous. Et puis, il y a les vierges qui ont de la sagesse, qui ont pris des réserves d'huile en abondance, qui en ont mis dans la lampe, qui ont allumé la lampe et qui voient clair sur leur sentier. Ta parole est comme une lampe sur mon sentier pour que je voie où je pose mes pas. Hein? Vous savez où c'est? Dans les psaumes 119. Alors, pratiquement, le service de la lumière, est-ce que c'est la lumière pour moi? Oh, je vais être éclairé, je sais ce que c'est d'être chrétien, c'est la lumière pour moi. Non, si j'allume ma lampe, il y en a alentour de moi. C'est la lumière pour moi et pour les autres. C'est toujours communautaire, la lumière. Nous ne sommes pas dans une société individualiste et qui réclame le moi-je, narcissique, comme aujourd'hui. Il faut savoir que la lumière est communautaire dans le royaume de Dieu, dans la conversion. Alors, c'est un être de lumière qui doit venir dans ma vie. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, par rapport à tous les pharisiens, à tous les hommes de loi, tous les hommes qui ont une Bible en main et qui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils lisent la Bible, mais non, on est sauvés en Christ, qui accomplit les Écritures, qui accomplit la Bible, par la foi. Alors, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez? Appelé des ténèbres à vivre dans l'admirable lumière. Qui est admirable à part Dieu? Non, c'est une lumière divine, c'est celle de Dieu. C'est le nom de Dieu, l'admirable. Avec Gédéon, son père. Mon nom est merveilleux, admirable. Hein? Alors, pratiquement... Et qu'est-ce qu'on doit faire? Annoncer les vertus. Les vertus de qui? De celui qui est admirable. Ça me semble tout clair. Ça me semble extrêmement clair. Prenons dans les Lumières, Jacques, un peu avant Pierre, Jacques, et qu'est-ce qu'on dit de la lumière? Au chapitre 1, verset 16, il parle à une communauté chrétienne. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ce qui veut dire que dans l'Église, on peut se tromper. On peut même aimer se tromper. Moi, je le dis franchement, j'ai passé des tas de 16 ans où j'aimais le Seigneur, j'ai lu la Bible, jusqu'à 42 ans, je me suis trompé. J'avais ma main jusqu'à l'humérus dans mes yeux. Et peut-être ça peut encore recommencer. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu, le Père des Lumières, immuable, la lumière immuable, éternelle, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc, pour que la lumière passe en moi, et qu'elle me régénère, qu'elle m'engendre à une nouvelle vie, par la parole. Le canal de la lumière, c'est la parole. Pour être engendré. Prenons l'épître à Timothée, la première à Timothée. Vous voyez l'histoire des lampes avec l'huile et la lumière, c'est pas l'histoire d'une petite lumière, d'une lampe de poche ou je sais pas quoi, d'un portable qui fait la lumière quand j'ai besoin de trouver la serrure. Hein. Alors, à la fin de la première épître de Timothée au chapitre 6, verset 13, je te recommande, chapitre 6, verset 13, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je pense qu'il n'est pas loin. Il faut prendre ça au sérieux. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc, dans Matthieu 25, la lampe avec l'huile et la lumière, c'est un chrétien qui vit avec Dieu, dans la vérité et dans sa lumière inaccessible. C'est-à-dire que le chrétien n'accède pas à la lumière par lui-même. C'est par pure grâce. Tous les jours, nous devons être comme des mendiants en quête de Christ et de sa lumière. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Je vous dis, j'ai 70 ans, plus je deviens vieux, plus je deviens fou, plus j'aime le Seigneur. Voilà. Alors, deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous avez vu le serviteur fidèle, la fin du chapitre 24, hein? Le voilà, on le retrouve là. Alors, parce que tout se tient dans la Bible, hein? Tout. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Où est-ce que Dieu a dit ça? Quand Paul dit ça, il fait référence à quoi? Genèse 1, 3. Et Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Et puis ensuite, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tout ça, je veux bien expliquer, mais ça prendra encore une demi-heure. Puis ensuite, et Dieu dit que la lumière soit. C'est pas le verbe bara en hébreu. Ça veut dire que la lumière se manifeste, se dévoile. C'est donc une lumière incréée, préexistante, éternelle. Parce que c'est seulement au verset 14 et 21 qu'il y a de la lumière avec les étoiles, le plutonium des étoiles, du soleil. Mes amis, la lumière de Christ précède toute chose. Et elle était destinée à tous les hommes, qu'ils aient péché ou pas. Jésus n'est pas venu seulement parce que nous avons péché, c'est parce qu'il est d'abord la lumière. Il n'a pas besoin du prétexte ou de l'excuse du péché pour venir. Il est notre lumière. C'est ça qu'ont oublié Adam et Ève, malheureusement. D'où l'orgueil. Et on se plante. Alors, en tant que chrétiens, nous venons des ténèbres, nous allons à la lumière, nous pouvons éventuellement refaire comme Adam et Ève. Je connais tellement bien l'Évangile. Je sais bien, j'ai fréquenté les églises, j'ai vu tout, etc. J'ai eu dans l'Assemblée un couple comme ça. un pasteur hollandais et sa femme néo-zélandaise. Ils avaient fait plusieurs églises. Et ils s'occupaient de réveil, de renouveau. Tendance charismatique, mais enfin, j'ai rien que charismatique. Il y a des vrais chrétiens dedans, comme il y en a des faux, partout aussi, dans les évangéliques. Pratiquement, ce qui se passe, elle m'a fait toute une liste de tous mes défauts. Je suis venu à la maison, mais mon chat, tu es, la bagarre ne me dérange pas. J'ai dit, tu as raison, j'ai tous ces défauts-là. Et je dis, le Seigneur a pris des gens, vachement, mais des défauts, tu sais. Regarde, on va regarder les apôtres, on va regarder. Et j'ai dit, c'est dans sa grâce qu'il prend des pécheurs pour le servir. Elle avait un chic coupé, c'était fini. Elle n'était pas arrivée à me culpabiliser. Deuxième chose, il faudrait que tout le monde prie ensemble et parle en langue. Je dis, il faut que tout le monde, quand il a prié, les chrétiens puissent dire Amen. C'est dans l'Écriture, je vais montrer. N'est-ce pas? Amen. Les esprits sont soumis aux esprits. Les chrétiens, entre eux, sont soumis à l'Esprit de Dieu, mais entre eux, il y a une approbation du Saint-Esprit. Alors, le troisième point, c'est moi qui attaque. Après qu'elle m'ait bien attaqué, je dis, tu as lu ta Bible depuis quand? Ben, ça fait 4 ans, 4-5 ans, peut-être plus. Je dis, pourquoi tu ne la lis plus? Ben, je la connais tellement, j'ai plus besoin de la lire. Je dis, tu es sur le mauvais chemin, sur un très mauvais chemin. Moi, je veux bien que tu viennes à l'église, mais ne garde pas ce chemin-là. Je serai patient, mais ça ne durera pas. Et surtout, Dieu ne tolérera pas ça que tu viennes corrompre l'église avec des attitudes pareilles. Gentiment, tout ça, hein, c'est le velours. Mais pratiquement, ce qui se passe, c'est que 3 mois après, elle ne venait plus. Elle aidait l'évêque de Verdun à faire des pèlerinages à Lourdes, à la Vierge Marie. Et 1 an après, elle quittait son mari, divorce. Quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne recevez pas la lumière, donc vous allez à l'obscurité. Donc un chrétien qui veut se priver de la lumière, je regrette, il rompt la communion de lui-même avec Christ et avec Dieu. Je ne dis pas qu'il perd son salut, ça, je ne parle pas de ça, c'est un autre sujet. Que Dieu est plus fidèle que nous. Heureusement, hein. Parce que si on perdait le salut chaque fois qu'on déconne, ben ce serait grave, hein. Si, dans l'Église catholique, on l'a, hein. Péché véniel, péché mortel, on va à la confession, on prêche ça, on retourne à la grâce et à la vie éternelle. Mais nous, on ne prêche pas des trucs pareils, il n'y a pas de sacrement, mais bon, on sait que Dieu est fidèle et miséricordieux. Donc, il n'y a que lui, dans son intelligence infinie, qui connaît vraiment le cœur, qui a été uni à lui. Et il peut s'égarer longtemps, à brebis perdue, et la rattraper. C'est peut-être nous qui devons aller la rattraper pour le Seigneur, hein. Bon, pratiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez une lumière dans ce texte, 2 Corinthiens chapitre 4, et là-bas, verset 3, c'est l'évangile. Ah ben, je vais aller plus bas, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », donc c'est Genèse 1-3, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, cette lumière éternelle prévue pour tous les hommes a brillé dans le cœur de Paul, sur le chemin de Damas, et puis pour d'autres, etc. Alors, au moment que Dieu l'a décidé, dans sa grâce, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Comment puis-je connaître la gloire de Dieu sans lumière? C'est une lumière qui vient d'en haut, qui me permet de connaître Dieu, la gloire de Dieu, et où est-ce que je la vois? Sur la face de Christ. Décortiquez ce verset toute votre vie. C'est le meilleur GPS pour retrouver la ligne maîtresse de la foi. Ok? Ce verset est capital. Et heureusement, l'herméneutique de l'Ancien Testament, l'interprétation, c'est toujours dans le Nouveau Testament qu'on la trouve. J'ai cherché longtemps, vous savez, pour trouver cette explication. J'avais lu Jean Chrysostome, un père de l'Église du IIe siècle en Turquie, Éphèse, et pratiquement il disait que ce verset, Genèse 1-3, c'était le Christ. Je dis, bon, c'est Jean Chrysostome qui a dit ça, d'accord, c'est bien, c'est beau, c'est bien. Je veux bien croire, mais il a aussi dit des trucs mauvais sur les Juifs. Bon, c'est pas mon père. Je veux bien qu'il était intelligent, qu'il était dirigé par Dieu, béni, mais c'est aussi un pécheur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je trouverai une fois l'explication dans la Bible? Et puis un jour, je suis tombé sur le texte, je l'avais déjà lu. Ça m'a sauté aux yeux. C'était clair. Jean Chrysostome avait lu ce texte. Voilà. La lumière de chrétiens, Matthieu chapitre 25, on y retourne. Matthieu 25. Est-ce que dans les heures, les mois qui viennent, dans le temps court que Dieu donne encore à l'Église, pour être conforme à sa volonté, je dis que le temps est court. Est-ce que chacun de nous peut aussi faire son examen de conscience et savoir s'il reçoit la lumière inaccessible? Ou s'il vit sur le pilotage automatique? Le pilote et le copilote vont derrière boire une tasse de café, puis l'Airbus avance vers les Pyrénées, puis la boîte, on retrouve la boîte noire plus tard, parce que l'avion est pulvérisé, on retrouve, c'était dit, montez, il fallait remonter de 300 mètres. Mais eux buvaient leur tasse de café. Et l'avion n'est jamais arrivé à Barcelone. Mais pratiquement, ils n'ont pas écouté le pilotage automatique. Où est mon pilotage automatique? Ma conscience éclairée par le Saint-Esprit. Il ne l'a pas donné pour les chiens. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. Pour qu'on ne s'endorme pas. Pas de pilotage automatique en vie chrétienne. Alors, Matthieu 25. Donc, les cinq folles des lampes sans huile, c'est du pilotage automatique. C'est de la foi par habitude, par tradition. Parce que je veux avoir mon petit trapentin au ciel. Mais ici sur terre, sanctification, direction de Dieu, transformation, marche par la foi. Ouh là là, tout ça, c'est pour les fous, ça. Alors, passons au prochain texte, c'est celui des dons. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage à place des serviteurs, toujours serviteurs, c'est bizarre, hein? On n'est jamais maître, nous, dans l'Église. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. En tant que serviteur, je vais vous dire, ma femme demande que je mette une cravate à chemise blanche. C'est par respect pour vous, hein? Parce que moi j'aime bien les machins, les chemises de bûcheron là, à carreaux, là, molletonnées et tout ça. Je vais au champ en tracteur et tout, vous verriez, je scie mon bois. J'ai besoin de la cravate pour me croire chrétien, hein? Ça va? Peut-être que les témoins de Jéhovah, si. C'est, j'obéis à ma femme de temps en temps, voilà. Pourtant, c'est mis, Marie, vous êtes le chef de la femme. Ben, moi, des fois, c'est elle, mon chef, mais c'est bien, c'est dans l'amour de Christ. C'est pas vraiment chef, hein. Elle veille sur mes petites négligences ou les grosses négligences. Alors, il donna, verset 15, 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Les amis, quand vous avez entendu tout à l'heure, c'est Jérémie, le témoignage de Jérémie, vous l'avez encore en tête, en cœur? Si vous l'avez oublié, c'est grave, hein? Vous voyez qu'il reçoit un talent, mais quand il le néglige, sa conscience est dérangée, il cherche dans la parole et il retrouve un talent de plus. Yavol, vous avez compris? Le talent, on peut vite l'enterrer. On peut vite l'enterrer. Quand vous voyez l'attitude, la façon dont ça s'est passé, il a expliqué, il retrouve un talent en plus. Il est en quête des talents. Il est en quête des bénédictions. Il n'est pas, si vous voulez, un chrétien, c'est un marginal. Un chrétien, c'est dont la conscience n'est pas contente comme celle des autres. Il souffre quand ça ne va pas, qu'il est sans le Seigneur. Sans sanctification, le vrai chrétien, il souffre. Il sent bien qu'il boite. D'un pied, peut-être de deux. Hein? Et puis, pratiquement, il n'est pas tout à fait normal pour les autres, parce que les autres sont contents. Moi, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait la fête, je vais travailler, j'ai mes sous, j'ai mes vacances, et un peu le reste, dans le lit. Eh bien, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas se poser. Mais quand le Seigneur est venu avec le Saint-Esprit, réveiller cet ours mal léché et en faire un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là ne sera plus jamais la même. Ça sera un marginal, ça sera un pèlerin. Il ne trouvera jamais le contentement de son âme en lui-même. Il ne sera jamais satisfait de ses petits moiseux. Il va falloir toujours plus. Qui peut donner plus? Vous allez regarder dans Colossiens, chapitre 1 et 2, Christ est la plénitude. Il peut remplir tout en tous. C'est nous les tous. Alors, voilà l'histoire des talents. C'est l'expérience de la plénitude de Jésus dans ma vie et de ma pauvreté. Et pratiquement, regardez bien dans le début de l'évangile de Jean, qu'est-ce que dit Jean? Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons reçu grâce sur grâce, plénitude sur plénitude. Avec Moïse, on a reçu les règles, hein, la loi. Et regardez bien le début de Jean, chapitre 1, verset 14, verset 14 à 16, vous allez voir, c'est là. Et pourquoi? Parce qu'un chrétien fait l'expérience de sa limite et de son manque d'infini. Moi, le jour vraiment que le Seigneur m'a fait donner le coup de grâce, je me suis senti un misérable. J'avais refusé d'aider une pauvre femme qui me demandait la charité sur la route. Dans les 5-10 minutes qui ont passé après, j'avais ramassé un coup de bazooka. Pourquoi? Parce qu'un gars à côté, sans, je ne l'ai pas payé pour le faire, hein, il me dit, tu sais, quand Jésus, quelqu'un demandait quelque chose à Jésus, il lui donnait sans demander des comptes. On travaillait tous les deux sur les routes, j'avais commencé les études d'ingénieur, et puis pratiquement, je voulais garder mes sous, quoi. Je travaillais le long de la route, elle arrive, les Allemands avaient tué son mari et ses trois frères devant elle, elle était complètement folle dingue, mais elle passait, elle mendiait. Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé tout dans ses chaussettes, dans son madame, mais en attendant, l'amour qu'elle avait besoin, je ne lui ai pas donné. Dans le quart d'heure qui a suivi, je savais, à la suite de la parole du copain, je n'ai rien dit, j'ai bossé, j'ai baissé la tête, j'ai demandé pardon, Seigneur. Je croyais que j'aimais les autres, je croyais que je t'aimais, Seigneur, pardon. Je suis rien du tout. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es là, tu es infiniment grand, infiniment saint, tu es une montagne d'amour, tu es Dieu. Seigneur, au secours. Au secours. 3 mois pour me décider à dire, oui, Seigneur Jésus, je t'accepte. Ben oui, quand on a enseigné dans le milieu athée, on veut bien réformer tous les autres, on est conformiste, on est transformiste, on est tout ce qu'on veut, mais on ne veut pas être transformé. Là, ça résiste, quand on est éduqué comme ça. Mais après, alors ici, c'est les talents. Donc vous avez l'exemple de celui qui a enterré son talent, et ça arrive, c'est facile. C'est une, notre société, on crée beaucoup de ces gens-là, pour le moment. Par l'éducation, par l'école, par l'éducation de tous les enfants centrés sur eux-mêmes. Hein? Pas sur Dieu ni sur les autres, au service des autres. Alors, vous voyez, au verset 24, chapitre 25, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Donc, il projette son cœur pourri sur la nature de Dieu. Je priais un jour pendant la nuit. Je savais depuis un an et demi que je devais aller voir un trafiquant d'armes de Kadhafi. On m'avait dit de... Parce que le monsieur qui m'avait dit s'était converti, c'était un haut financier, il avait tout joué à la bourse, tout perdu, il s'était converti. Et pratiquement, là, j'ai dit, je n'y vais que si Dieu me le permet, me demande. Parce que il avait des tueurs à gages, le gars, et tout. Alors, je priais, je lisais ma Bible, il était 2-3 heures du matin, et puis, clairement, dans ma conscience, c'est demain matin que tu vas voir cet homme dont Joseph t'a parlé. Je fais la différence entre ce que le Seigneur me dit et ce que moi je pense. Hein, je vous le dis, c'est nettement différent. En général, ce que le Seigneur me pense et me dit est clair, directif, et que ça me plaise ou pas, il le dit. Alors, pratiquement, ben, au matin, à 16h du matin, je téléphone à Joseph, je dois aller voir ton copain. Le Seigneur me le demande. Et je sais, le Seigneur m'a mis dans le cœur, il est sur les points de mourir. S'il se convertit, il servira le Seigneur. S'il ne se convertit pas, c'est parce que je n'ai pas été le voir et que je suis resté ici. Alors, trouve-moi-le. Il le connaissait, il savait dans quelle ville. Il téléphone, il était dans un hôpital, service d'urgence, 3e infarctus. Le temps de faire les kilomètres, 170 kilomètres, on arrive là-bas en voiture. Et, miracle, parce que ce n'était pas l'heure, c'était rien que pour la famille, les visites. anglaise rentrée. 11h moins quart, anglaise rentrée dans le service. Je dis bonjour. Je viens parce que le Seigneur me demande de venir te trouver, parce qu'il veut que tu vives et que tu le serves. Mm. Mais vous rêvez. Mais vous rêvez. Mm. Je vais vous dire les paroles comme il l'a dit. J'ai demandé à Dieu de crever. Vous ne connaissez pas ce que j'ai fait. J'ai vendu des avions, des bateaux d'armes à Kadhafi. J'ai eu des fleuves, des rivières de sang au bout de mes mains pour des siècles. Comme je suis trop lâche pour changer, j'ai demandé à Dieu, je vais dire mourir cette fois-ci, mais l'employer l'autre mot, et pratiquement, je n'attends plus rien que la mort. Tous les autres, là, dans le service, ils veulent vivre, mais pas moi. J'ai dit, est-ce que vous... Je vais vous dire une chose, vous avez tort. Vous pensez que Dieu est aussi crapuleux que vous. Vous avez fait mourir les autres et vous voulez qu'il vous fasse mourir. Dieu vous aime, vous êtes un pécheur. Et il déteste votre péché. Il n'aime pas votre péché. Il me regarde. Mais on ne m'a jamais dit ça. Ben oui, mais c'est comme ça. Je prends le texte de la croix dans Luc avec le brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras dans mon paradis. Je dis, aujourd'hui, le Seigneur Jésus peut te pardonner ton péché si tu lui demandes pardon. Il a l'autorité. Jésus est Dieu, il a l'autorité. Donc tu n'es pas appelé à mourir, tu es appelé à demander pardon et à recevoir une nouvelle vie. Qu'est-ce qui fait notre... Ah ben ça alors, et tous les fils, hein, ça alors. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? C'était un homme pragmatique, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on prie, on lui parle, on lui dit, il est là. Je ne suis pas venu tout seul. Je dis, si j'étais tout seul, je ne viens pas te voir. Avec tous les tordus qui t'entourent, je ne viens pas. Alors, il me dit, ben oui, je veux bien. Je prie. Repentance, etc. Donner sa vie. Et bon, il dit Amen. Hein. Après que j'ai dit Amen, et puis je dis, écoute, pour être sûr que c'est une vraie conversion, pas conversion bidon, parce que je me suis déjà fait avoir, les campagnes d'évangélisation, vite faites bien faites. Hein. Alors, je dis, pour que tu saches, autant, et que moi aussi, et que ce soit clair devant Dieu, si tu as reçu ton Saint-Esprit, je vais te poser des questions. Je veux bien. Tu vois la jolie maîtresse qui est dans le corridor en mini-jupe, hein? T'en as des autres sans doute. Oh oui, j'en ai plusieurs. Tu ne la touches plus. Tu n'en touches plus aucune. Tu lui payes son loyer. Tu la nourris pendant 3 mois. Elle ne vient pas chez toi. Ok. Aussi sec, hein? Après, ta femme t'attend depuis 17 ans. Et ta fille. Ta fille qui a 18 ans aussi. Tu retournes avec. Ok. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, je dis, comment que ça se fait, avec toutes les BMW, les voitures volées, etc., que tu n'es pas en prison? Comment que ça se fait que, avec tes sociétés immobilières, quand tu prends des sous-traitants, tu ne les payes pas, quand les clients viennent, les maisons pourries, mal faites, tu n'arrives pas à les vendre, comment que ça se fait? Alors, il me dit, oh, tu sais, même quand je passais aux frontières, avec les armes pleines à l'auto, je passais, qu'il dit, et les autres ne passaient pas. Alors, il sort de sa carte une longue carte en plastique, avec des rayons de couleur, il me dit, j'ai reçu ça dans une secte. Et quand je vois les gendarmes, les douaniers, je m'arrête et je demande à Satan de changer leur pensée. Puis je passe. C'est comme si j'étais un frère, un ami. Ils me laissent passer. Et quand un société immobilière, ils ne veulent pas signer, ben je vais aux toilettes, je prononce leur nom, je demande à Satan de changer leur pensée et ils signent. Et ça fait des années que ça fait... Oh oui! Alors je dis, tu as accepté Jésus, demandé pardon. Tu as reçu le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Tu me donnes ta carte? Sans regret, tout de suite, il me la donne. Je peux aller la brûler, je sors dehors, des milliers de fourmis, je sors dehors, je l'allume, au nom de Jésus, hein, parce qu'elle n'aurait pas brûlé, et je la jette, elle se tordait comme si c'était quelqu'un, je la jette dans l'égout. Je reviens maintenant, je vais prendre le texte de Zachée. Zachée qui rend 4 fois à tous ceux qu'il a volé, tout ce qu'il a pris, et qui donne tout le reste aux pauvres. Voilà ton texte, voilà ce que tu dois faire. Puis je l'ai quitté, et quand je suis rentré à la maison, 2 heures en voiture, pratiquement, les 2 enfants aînés au téléphone, et il y a une voix d'outre-tombe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des manifestations démoniaques de Satan, des voix terribles, et les 2 enfants étaient tout blancs. Je dis, ça y est, Satan veut mettre de la peur dans ma famille, dans mes enfants, pour que je ne fasse plus le ministère. Alors, je prie avec eux, au nom de Jésus, c'était fini, ils n'ont plus eu peur, j'ai raccroché, mais pratiquement, Satan avait perdu la partie. Est-ce que vous voulez gagner la partie ou la perte? Pour gagner la partie, pour gagner le combat de la vie chrétienne, il faut que chacun de vos moments où vos talents s'enterrent dans une situation difficile, charnelle. Vous êtes retombé dans vos baskets au lieu de vous élever vers le ciel. Il faut demander pardon au Seigneur et redemander un autre talent. Dieu a des trésors en réserve pour donner des talents chaque fois, parce qu'on sait bien qu'on a les poches trouées et qu'on n'a pas toujours l'âme honnête avec lui. Il le sait d'avance. On n'a pas toujours l'âme, on reste toujours des pécheurs. Rappelez-vous ce que Jean a dit dans son épître, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Donc nous sommes ici une communauté de pécheurs. Je vous salue bien. Alors une autre parabole dans Matthieu 25, c'est celle des petits frères. Je ne vais pas tout lire parce que il faut terminer. Vous avez envie de rentrer, de manger des frites comme les Belges. Alors, verset 34, Matthieu 25, verset 34. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez été préparé dès la fondation du monde. » Imaginez ça, une place préparée avant que les étoiles n'existent. Ça doit être une sacrée place. Hein. Moi, je vous dis que c'est mieux que lâcher son plastique ici. Hein. Alors, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. Et juste, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu voir, avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vais vous le dire en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bon. Ça, depuis que je suis gosse, c'est quelque chose qui a incrusté en moi. Hein, depuis l'âge de 8 ans. Parce qu'un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui mendiait. Et j'avais tout ce que j'ai donné, c'était une belle pièce en argent, avec les 4 droits de Belgique, 100 francs, ça vaut 600 euros hein, maintenant. Et je voyais tous les autres donner une petite pièce trouée, 2 cents, quoi. C'est comme moi, je donnerais 600 euros. Mais je n'avais pas de petites pièces, parce que j'aurais donné des petites pièces. J'avançais, j'étais à ma mère, et ma mère était assez dure. Hein. Elle était très économe, elle savait, c'était une femme de tête. Hein. Pas chrétienne, hein, Suzanne. Autrement, je te serais taquiné. Elle faisait son possible, elle n'était pas chrétienne, mais elle faisait son possible. Alors, pratiquement, en avance, il y avait des centaines de personnes, je vois le mendiant là-haut, avec son chapeau, comme ça, courbé, honteux de mendier, et tout le monde sa petite pièce. Et puis moi, pas de petite pièce, la grosse pièce qu'un tonton m'avait donnée pour l'anniversaire. Oh, j'y tenais, de 4 rois de Belgique. Alors pratiquement, je donne tout, je donne rien. Je donne tout, je donne rien. Eh oui, Grégory, hein, Jérémy, eh oui, c'est comme ça, je donne tout, je donne rien. Et ça, ça est resté, hein. C'est là-dedans, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, 10 mètres avant, 8 mètres, il faut que je me décide. Urgence. Je vous le dis pour vous, urgence aussi. Pour moi, toujours. Parce qu'on peut encore devenir pire après qu'on a bien choisi des choses, et puis après on s'endurcit. Alors j'ai dit, tout dans ma conscience, je m'arrange pour la mettre dans une autre main et que ma mère ne voie rien, et je passe à côté du gars, je lui mets dans le chapeau, paf, il me regarde. Il avait un regard, mais qui explosait. Et vous savez ce que j'ai pensé? Au bonheur de Jésus de nous regarder quand on sera en face de lui. C'est plus fort que moi. C'est quand nous le verrons face à face, nous lui deviendrons semblables. Premier épître de Jean, chapitre 3. Semblables comment? En amour, en compassion, en vérité de cœur, pas seulement en idée, un Jésus rationnel, intellectuel. Alors, je me rappellerai toujours ce regard, c'était fini. Chaque fois que je voyais quelqu'un le long de la route qui marchait, même de dos, je disais, celui-là, il va se suicider. Celui-là, ou là, il fait de la dépression. Je m'arrêtais. Ou des réfugiés avec des valises qui allaient, ils ne savaient pas où aller. Je m'arrêtais. Et puis, je les ramenais à la maison. On était jusqu'à 35 dans la maison. Et ma Marie-Hélène que vous avez vue, Tu en as encore ramené un? Oui, oui. Ben oui, Mylène, ben oui, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. Je les cherche pas. Mais si tu les cherches, je le fais exprès, t'en ramènes tout le temps. Alors, la fille aînée, Bénédicte, 34 ans, l'autre, 32 ans, Véronique. Ah oui, papa, hein, tu en fais de trop, hein. Ah non, il faut être raisonnable. Tu manques de sagesse, hein. Et moi, dans la première église évangélique où j'ai été, l'église s'est divisée à cause de moi. Ah ben oui! Il fait des œuvres pour être sauvé. Voilà l'étiquette qu'on m'avait mis. Et moi, j'étais fou du Seigneur, c'est tout. Alors, pratiquement, il y en avait même qui étaient à l'Institut biblique pour me faire virer. C'est pour vous dire que dans une église évangélique, on peut être divisé dans notre cœur sur la façon de comprendre la parole, la façon de vivre la parole. Alors, faisons gaffe, hein, les amis. C'est beau de chanter ensemble, mais vivre ensemble le même évangile, le même Christ, là, c'est la règle, c'est la vraie règle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma femme, oui, elle acceptait. Bon, on avait des lits partout, des caravanes, enfin. Alors, on avait 3-4 000 euros d'eau, 3-4 000 euros d'électricité, et puis il fallait faire un grand jardin, 2 hectares et demi pour avoir mangé au magasin. Pas de sous, pas de subsides. Heureusement qu'il y a eu l'église d'Angers, et puis d'autres comme vous, parce que je recevais un chèque de 100, 200 euros, 50 euros, 300 euros, et malgré le travail du jardin et tout, les bénédictions du Seigneur sur le jardin, ben il fallait ces euros-là, il fallait payer l'eau, l'électricité, ou un des enfants réfugiés là, le docteur. Le docteur, l'hôpital, l'inscription à l'école. Alors, je vous le dis à l'honneur de vous, il y a déjà certains qui sont décédés, je recevais entre 800 et 1000 euros par mois. Une partie officiellement de l'Église et d'autres chrétiens d'ici qui ajoutaient de par leur libre vouloir. Et si j'y ajoute que j'ai rencontré ici, parlé que 10 minutes avec, qui en Allemagne, ben, vous et moi, ça faisait 1500 tous les mois. Ça fait combien d'années? La fidélité de Dieu, moi je l'ai vue à travers vous. Alors, à travers qui aussi? Le Seigneur qui guidait vos pensées, bien sûr. Parce que je n'ai pas été mendier tous les 5 minutes auprès de vous. D'ailleurs, avec mon caractère, je ne fais pas facilement le mendier. Alors, pratiquement, je me suis déjà beaucoup humilié. Ça, je ne suis pas encore mort, donc il faudra encore que je sois humilié. Hein? Plus on vit vieux, c'est qu'on n'est pas prêt, hein? Le Seigneur, il casse tout le bazar. Bon, comprenez, moi je le prends comme ça. Pour moi, comme pour. Je ne veux pas dire pour les autres, je ne vise personne. Alors, non. Je ne vise personne, je ne vise que moi-même. Regardez bien ici ce qui est mis. C'est que le Seigneur demande qu'on ait. C'est la dernière parabole de Jésus dans tous ses évangiles. De l'attention pour tous les frères abandonnés, rejetés. Poursuivi, mis en prison. Vous croyez qu'il y en a? Il y a des milliers de morts dans le désert du Néguef. Des Érythréens chrétiens qui ont fui vers Israël, qui ont été captés par des chefs musulmans. Les femmes sont vendues comme esclaves en Irak, à Daesh, et l'État islamique. Les hommes, ils sont morts là. J'ai vu des photos, moi, de tous ces. On dirait la momie de Toutankhamon, dans le désert, comme ça. Alors, pratiquement. On a logé des gens qui ont passé la Méditerranée. Ils ont dit, on était dans un bateau, on était 200, ben on est sorti à 15 vivants du bateau. Ils ont logé chez moi. J'en ai vu qu'il y avait des cauchemars pendant des mois. Il fallait prier avec eux pour que ça parte. Alors, ou des gens qui avaient été violés, faire manger des excréments, couper des têtes à côté d'eux, on en a logé des pareils. Les amis, ce texte n'est pas du bidon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, pratiquement, ce que vous voulez savoir, c'est que nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'iniquités, il y a beaucoup de chrétiens. Ceux qui ont payé le prix cher, c'est les chrétiens en Orient, les chrétiens du Liban, les chrétiens de Syrie, d'Irak, de partout. Or, avant que Saddam Hussein ait été attaqué par la coalition des 24 pays, à Bagdad, il y avait des foires avec la Bible. Je connais des pasteurs qui ont été... Tariq Aziz, son général de Saddam Hussein, couvrait tout. Il pouvait vendre et donner des bibles et tout. Il y avait plein de chrétiens. Maintenant, quick. sauf ceux qui sont sauvés ici. S'ils sont acceptés. Alors, les amis, ce que je veux dire, c'est que c'est la parabole de fin des temps. C'est peut-être une autre parabole, avec un autre sens. C'est que dans la période de tribulation, ce serait peut-être le peuple juif. Le peuple juif qui, tout d'un coup, après avoir vu le temple, pratiquer les sacrifices, se rend compte que l'Antichrist veut être adoré dans le temple. Et que ces juifs-là, tout d'un coup, se rendent compte, mais c'était pas le Messie, c'était pas le Sauveur. Et tout d'un coup, ils se révoltent, et on voit dans l'Apocalypse qu'ils sont décapités, ils sont sous l'autel. Ils ont été massacrés à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Dans les tribulations, une partie d'Israël qui aura résisté à l'Esprit Saint tout un temps va certainement avoir besoin d'amour et de soutien. Tout ça, c'est notre temps d'aujourd'hui. Nous n'avons pas décidé de vivre et de naître maintenant. Il y a beaucoup d'autres qui ont attendu le retour de Jésus, mais énormément de prophéties sont réalisées maintenant. Et celle d'Ézéchiel 38 est sur le point. Il est déjà en train de chauffer dans le four. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? C'est simplement vivre comme notre maître, le Seigneur Jésus. Priorité de priorité. Pas de feu rouge sur notre route qui nous empêche d'avancer. Pas de feu rouge qui nous arrête. Qui veut prier ?